Alors, comment on a réglé le micro là? Trop fort, pas assez fort, non, ça a l'air bon. Et bonjour à tous, dernier podcast, J-1, voilà, ne pleurez pas, je sais que c'est un jour triste, mais pour célébrer la course demain. Alors, aujourd'hui, on y va, on enchaîne direct, pas de préliminaire, on part sur les questions, voilà, toutes, là, hop hop hop, elles sont dans un fichier Word, tac, j'attaque, Nicolas Notterman, allez hop. Au banc des accusés, là, hop, accusé, levez-vous, là, Notterman, viens par là, là. Alors, un méchant en plus, hein. Notre duc est en forme et super entraîné à l'approche objectif. Trois petits points, tu vois, le mec n'y croit pas. Comme avant Istria. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Sur base de quels arguments peut-on espérer que notre duc ne connaisse pas un nouvel échec? Voilà. Voilà, donc là, on a un début de mutinerie. On a quelqu'un qui refuse. De croire en la monarchie de droit divin, comme sous Louis XIV. Et il lui faut des explications, tu vois. Bientôt, il va lui falloir des preuves scientifiques. Eh bien, Nicolas, la base des arguments est assez simple, comme tu l'as peut-être entendu dans d'autres podcasts. C'est tout simplement Catigne, je me suis entraîné sur les mêmes sentiers, donc avec Strava, les mêmes segments, et je faisais des temps plus rapides pour une fréquence cardiaque égale et bien souvent un thème d'exercice en deçà de ce que je faisais avant. C'est-à-dire, avant, je passais en mode entretien SV en côte et là, je passais en mode tranquille et j'allais plus vite. Tu vois. Donc, c'est ça l'argument principal parce que c'est vrai que les sensations, hein, normalement, elles sont toujours bonnes. Bah, deux jours avant Istria, je ne pouvais pas te dire j'allais abandonner. Alors, il y avait quelques tensions, mais... De là à me dire ça allait se passer aussi mal, j'étais loin de m'en douter. Alors, Florian Serre, jus de betterave, voilà, on a fait ça, j'ai pas mis à jour, oulala, mais quel branleur. Benoît Maillet, ah. Mais je trouve que tu es plus humble dans ton discours avant l'UTMB, Istria t'a marqué, putain, vous aussi. Encore dans le dernier épisode de la bande à D+, et non pas la bande tout court, tu y as fait référence. Est-ce que le duc est mieux préparé mentalement? Ouais, mieux préparé mentalement, je sais pas. Je dirais que oui, parce que je me prépare à ce que ce soit difficile après Berton, et je me rappelle vraiment de l'an passé. Mais quelle est la préparation mentale du souverain? Est-ce que l'arrogance du seigneur ne tient que sur sa précision chirurgicale de ses préparations, ses calculs Excel, et se fait confiance par cela? Alors c'est marrant, à chaque fois vous essayez de trouver... un espèce de truc mystique de la préparation mentale, mais c'est ça en fait. Préparer le parcours, préparer ses temps, c'est ça la prépa mentale. On va pas aller griller dans le désert, dans la forêt, en dansant tout nu autour d'un feu et en se pinçant le kiki. Ça, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de magie. Donc c'est de la préparation, c'est de la rigueur, c'est de l'étude de parcours, et aussi à un moment donné, c'est la cinquième fois que je le fais. Si tu veux, je me dis pas, oh là là, qu'est-ce qui va se passer au col de la Seigne? Mon Dieu, mais ça va être la surprise. Eh ben non, comme d'habitude, en montant, ça va me casser les couilles, parce qu'il est pas très raide. Il va falloir alterner de la marche et de la course, et j'en aurais pas envie. Au sommet, j'aurai froid, parce qu'il y a un peu de vent, donc il faut que je pense à mettre ma veste avant. Et en fait, voilà, on a pensé à tout, il y a plus de surprise. Plus de surprise, plus de doute. Voilà, on est préparé mentalement, on sait ce qui va se passer. C'est aussi simple que ça. Alors, François Lefebvre... Je sais pas du tout pour combien de temps j'en aurai. Penses-tu passer moins de temps que l'année dernière sur la partie soins automassage? Alors là, on parlait de la préparation. En tout cas, tu en parles moins, j'ai l'impression. Et si oui, quels sont les changements effectués auxquels tu attribues ces bénéfices? Renforcement ou autre changement dans l'année? Oui, c'est vrai que j'en ai peut-être moins parlé. Après, en fait, mon coach me disait d'en faire deux fois par semaine par rapport aux entraînements qu'il prévoyait. Donc je me suis pas non plus hyper excité, et plutôt que de passer 4 heures à récupérer, ce qui était peut-être un peu idiot, parce qu'en fait au bout d'un moment tu perds de l'énergie là-dedans, je choisissais une thématique par jour, tu vois. Une thématique botte de pressothérapie, une thématique automassage et étirement, une thématique rien parce que c'était trop dur, une thématique sauna, voilà. Et c'est vrai que j'en ai moins fait des caisses, mais je pense que j'ai plus ou moins dû y accorder le même temps. Moi, ça, c'est des choses qui sont très habituelles, donc ça m'étonnerait qu'il y ait une différence flagrante. Après, je ne compte pas, C'est vrai que je ne les compte pas, donc je ne peux pas te le dire avec, avec certitude. Éric Le Gouet, petite question qui peut-être est évidente en tant que novice soldat, mais je la pose quand même. Prévois-tu une séance d'ostéo dans les deux semaines précédant The Deport? Et si oui, c'est quel type de séance? Eh bien, je n'en ai pas fait, Éric, puisque je n'avais pas spécialement l'occasion de me rendre chez mon ostéo. Bah, surtout, j'en ressentais pas trop le besoin, puisque je n'avais aucun bobo. Donc je me suis dit, on n'a rien, c'est pas la peine de s'exciter, on va pas y aller, tu vois. Au cours de la préparation, j'ai jamais eu mal à un genou, j'ai jamais eu mal à un tibia. Et d'ailleurs, souvent j'ai la cheville un peu verrouillée. J'ai eu l'occasion de passer voir Cap Prévention, s'ils habitent à côté de chez moi. Et en fait, mes chevilles étaient vraiment très très mobiles. Donc, dans ce cas-là, ça ne me servait pas. Et donc, je n'ai pas fait la route pour aller voir, voir Benoît. De toute manière, Benoît, il fait des séances d'ostéo classiques, hein, comme vous l'avez vu en interview. Tac, il regarde le corps qui bouge. Il se dit, ah, tiens, là, ça bouge pas comme d'hab. Bam ! Il tape dessus, hop, ça rebouge comme d'hab. Et allez, rentre chez toi. Donc voilà, Eric. Pas eu le besoin cette année, peut-être parce que j'ai harmonieusement fait les choses avant. Et la prépa était peut-être aussi moins débile que les autres années. Donc, un homme neuf. François Ferdin, utilises-tu l'impédance? Donc là, c'est pour mesurer à quel point j'ai le droit d'aller au kebab ou pas. Je pense que ton nutritionniste est au top. Non, j'ai embauché un nul, j'adore ça. Mais je me demande si en altitude, tu ne catabolises pas plus musculairement. Ah ben si, bien sûr. Et donc, tu ne grossis pas à cause de la perte de muscles. Oui. Et malheur, tu prends du gras. Alors François, non. Parce que... Alors l'impédance, c'est délicat. Si tu utilises celle de ta balance, elle est quand même biaisée par ta composition en eau. Donc, c'est pas exceptionnel. Et c'est pas parce que tu vas me dire « Ouais, mais peut-être le chiffre est pas bon, mais je peux voir l'évolution. » Non, ça marche pas non plus. Donc tu peux pas utiliser ta balance. Du coup, il faudrait que je m'auto-pince les bourrelets de gras avec une pince à un appendicomètre, quoi. Évidemment, on peut pas le faire. Après, t'as les photos dans le miroir. Tu vois, quand t'es un peu bouffi, tu le vois. Et là, ce n'était pas le cas. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? En altitude, on catabolise plus, c'est vrai. Bah donc, on a augmenté les proportions que je mangeais. C'était, par rapport à la plaine, c'était énorme. C'était au moins 30% de plus. De la perte de muscles, je pense pas, parce que je descendais quand même très bien, même jusqu'à la fin. Et quand j'allais faire des séances muscu, donc de la kettlebell, j'étais face à la glace pour bien faire les exos, ben je voyais pas vraiment de différence. Donc, j'ai envie de te dire que la donnée « on catabolise en altitude » a été gérée, mais parce qu'on l'avait pris en compte dès le début, hein, pas par chance, hein, encore une fois. Lionel Badet. Alors, une question surprenante de la part de ce monsieur qui est plutôt rugueux, tu vois, plutôt un rustre, chasseur, habitué à évoluer dans un milieu naturel, qui est justement excité par les situations extrêmes, qui me pose cette question, donc. Comment ça se passe et comment tu gères tes pauses pipi-popo? Tu obéis au diktat, tu serres et imposes à ton corps le moment choisi? Est-ce que ça t'a déjà coupé les jambes? Alors, ça peut être intéressant. Mais sinon, si j'ai envie de déverser mes organes sur le chemin, je déverse mes organes sur le chemin à l'instant T où j'en ai envie. Alors, à ceci près que si on traverse une ville, non. J'attends un peu. Et puis, évidemment, on va se décaler de 2-3 mètres du chemin, quoi. Tu vas pas chier au milieu du truc. Et puis, vas-y, le mec derrière, allez, débrouille-toi avec ça. Hein. Esquive, hein, parce que là, j'ai fait une pyramide. Il n'y a pas Jésus au sommet, mais on dirait quand même. Par contre, effectivement, ça peut te couper un peu les jambes ou te sortir de ta course. Mais de la même manière que le premier ravito te sort un peu de ta course, des fois. C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de gérer un effort, ça monte, ça descend, ça relance à plat, etc., etc. Et d'un coup, t'arrives au ravito, et bah, tu prends 2 minutes pour remplir tes flasques, bouffer un coup, et tu repars. Et en fait, t'es plus dans le même état d'esprit qu'avant. Bah, moi, je trouve que c'est un peu pareil. Donc, voilà, si une envie vient, hop, on la soulage, et c'est parti. Owen Nissilour, avec ta blessure au pied cette année, la prépa légèrement perturbée ces derniers jours, comment sens-tu ta performance à l'UTMB? Alors, Owen, très 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 mauvaise question. Tu as peut-être arrêté de me suivre pendant longtemps, je ne sais pas, mais la préparation à l'ailleurs était déjà très jolie. Je rappelle que j'ai quand même fait une fois 8h15, 62 km et 4200 D+. C'est une sortie qui est quand même pas anodine, sans trop forcer. Donc j'étais en confiance, l'ailleurs se passe bien, double confiance. Du coup, comment sens-tu ta performance à l'UTMB? Bah bien, hein. Puisque finalement, depuis début mai, on peut tracer une ligne de progression. Ligne droite, quoi. Hein. Y égale 4x plus B, quoi. Allez, hop. Gauthier Perrault, petite question. Quand je regarde ton plan, j'ai l'impression que tu ne manges pas énormément en termes de calories. Eh oui, Gauthier qui pense qu'il faut manger énormément parce que peut-être ses collègues de travail s'empiffrent. Bien sûr, n'hésite pas à les dénoncer en commentaire, à donner nom, prénom, ville, date de naissance. Et c'est bien normal, quand j'étais ingénieur, donc le midi on mangeait tous ensemble, et je n'étais pas celui qui mangeait le plus. Par contre, j'étais le seul qui faisait 20 heures d'entraînement par semaine. Et évidemment, les autres étaient... Attention, roulement de tambour. Trrrram. Gros. Donc, tu consommes si peu que ça en courant. Bah oui, quand tu vas courir une heure, ce n'est pas la peine de manger l'équivalent d'un hippopotame. On n'en a pas vraiment besoin. Tu t'alimentes énormément pendant les sorties où j'ai une très mauvaise estimation des calories. Bah oui, quand même, parce que il y avait 100 grammes de riz posé cru à chaque repas. Ça remplit l'assiette. Ça fait quand même beaucoup. La preuve... J'ai encore fait monter mon hémoglobine glycée, donc c'est bien que j'ai bouffé beaucoup de sucre. Donc, attention, Gauthier, méfie-toi. Je pense qu'il faut que tu pèses tes repas. Tu seras sans doute surpris, peut-être, de tout ce que tu ingères. Si tu ne l'as jamais fait, c'est toujours une expérience intéressante. Jonas Kennes. D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que tu as déjà optimisé au moins 90% de ce qui peut l'être. Non. À ton avis, quelle marge de progression en heure minute as-tu encore sur cette course UTMB? Alors, j'ai plus ou moins répondu dans une question, mais déjà, je travaille à 100%, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont devant. Donc déjà, ça, rien que ça, c'est énorme. De ne pas travailler. Mais jamais, hein, tu vois, même pas un petit peu. En fait, ton seul travail, ce serait de vérifier si ton comptable a bien fait les virements sur ton compte bancaire. C'est tout. Voilà, 2 minutes tous les lundis matin. Ça, c'est un vrai athlète professionnel. Donc, il y a ça. Et il y a que ça. Le reste, je sais tout comment faire, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais le fait de ne pas travailler, en fait, c'est énorme, vous vous rendez pas compte. Parce que souvent, on dit, ouais, les cyclistes, ils vont telle allure et tout, c'est un truc de malade. Ouais, mais vous êtes face à quelqu'un. Ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent sans jamais travailler. Vous imaginez les progrès de 10 années d'entraînement parfaitement assimilé. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors après, tu vois, il y a l'étalon Kylian. Donc tu te dis, je peux pas battre ce monsieur, en fait. Puisque ce monsieur n'a jamais travaillé de sa vie et il fait des sorties longues en montagne depuis ses 3 ou 4 ans. Donc je ne peux pas le battre. Il part avec une avance beaucoup trop grande. Donc c'est l'étalon Kylian, là où tu ne pourras jamais aller. Mais entre l'étalon Kylian et le niveau actuel, bah, y a tout un tas de nuances qu'on peut éventuellement aller visiter, quoi. Alors, François Ferdin, tu as fait un podcast sur le coach que tu choisirais, mais qui conseillerais-tu aux amateurs? Sachant que les coachs ne les encadrent pas forcément. Alors ça, c'est faux. Les coachs encadrent surtout des amateurs. S'ils encadraient que des athlètes professionnels, il y aurait 20 personnes en France à encadrer, et vu qu'il y a à peu près 200 coachs, je ne sais pas comment ils feraient pour vivre. Un coach proche de la façon de s'entraîner du sportif. Antoine Guillon n'est pas coach, hein, attention, je crois qu'il n'a aucun diplôme. Un coach qui a un bon passif de coureur de haut niveau, genre Nicolas Martin. Moi, j'ai quand même du mal à me faire coacher par un mec qui court pas. Je me dis, d'où il tient ses références ? Il n'y a pas testé sur lui, il m'envoie des exos, il sait pas en fait vraiment la douleur que ça fait. Quelle est sa légitimité en fait à me coacher ? Tu vois, quand on écoute un Jean-Louis Ball, il a raison 80% du temps. Et puis le reste du temps, en fait, il affirme une énorme bêtise. Donc quand il dit que la musculation ne sert à rien, moi je lui dis, bah ouais, ça sert à rien, ouais. D'ailleurs, Aurélien Dunant nous l'a prouvé l'an passé. Là, il fait, hein, quoi, comment ? Bah, il a abandonné au bout de 10 bornes. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. C'est... Ah ouais, bien sûr, non, mais bien sûr, c'est la faute de Jésus. Jean-Louis, bien sûr, fracture de fatigue du sacrum, mais c'est pas parce qu'il manquait de musculation, hein, c'est le petit Jésus qui est passé par là, il a dit, allez, tiens, toi, pan, une fracture de fatigue, allez, hop, tu l'as, voilà, comme ça, gratuitement. Donc j'ai toujours un peu du mal avec les coachs qui n'ont pas vraiment pratiqué. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir un certain niveau, mais en fait, à un moment donné, le mec, quand il t'envoie une séance, faut qu'il sache ce que ça représente, quoi. Ouais, mais parce qu'il a mesuré la charge de Foster. Non, mais ça, on s'en bat les couilles, c'est des chiffres, on s'en fout. Un coach avec un passé de multisportif. Oui, c'est très très bien, ça. C'est très intéressant, en plus. Vu qu'en général, le trailer fait plein de sports. Voilà. Sébastien Cornette. Bah écoute, François Ferdin, Sébastien Cornette, tu peux écouter le Nolio Podcast, épisode numéro 6 de la saison 1. Voilà, je te le sors de tête. Et on avait interviewé Sébastien. En fait, Sébastien, très très gros passé de triathlète de haut niveau. Attention! Et en plus de ça, il est très intelligent, il a su s'ouvrir à la marche nordique et au pilates. Quand tu es triathlète de haut niveau, avoir la présence d'esprit de t'intéresser au pilates, qui est quand même bouger dans l'espace avec un petit bâton, ça montre que le monsieur a une capacité de réflexion extraordinaire en plus d'être un bon sportif. Donc oui, ça c'est intéressant. Benjamin, oh putain, ça va durer des heures. Benjamin Burle, comment arrives-tu à définir tes allures en descente ? Je ne les définis pas, j'affine au coup par coup. C'est-à-dire, je descends, donc par exemple, la première descente pour la Saint-Gervais. Je pars du sommet du Delévray, je descends, et arrivé. Alors, vu que ça va faire 5 fois que je la fais, je vois à peu près l'allure. Arrivé au niveau de Saint-Gervais, je regarde sur la montre, et en général, on est un petit peu en avance quand même, donc je ralentis progressivement, et à force de le faire sur chaque checkpoint, eh ben, au fur et à mesure, tu adoptes le bon rythme. Mais tu peux difficilement faire mieux. Corentin Thiébault, l'ultracyclisme ne t'a jamais tenté avec ton passé de cycliste ? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'ultra-trail, puisque l'ultracyclisme se déroule souvent sur une semaine. Moi, les courses que je fais durent 24 heures avec une nuit sans sommeil. C'est-à-dire que le jour où je fais des courses où il y a deux nuits sans sommeil, je redeviens un débutant. Donc quel serait mon intérêt de débuter dans un autre sport ? Je ne vois pas. En plus, l'ultracyclisme, il y a une densité proche du néant, donc c'est peut-être le trail des années 2003 pour l'instant. C'est des épreuves où tu payes, mais je ne sais pas pourquoi tu payes, parce qu'en fait, tu te ravitailles avec ta CB dans les bars et restaurants. Donc en fait, si je veux faire l'ultracyclisme, je vais le faire tout seul, quoi. Aucun média n'en parle, bon, tout le monde s'en fout. Corentin Thiébault, encore une fois, les fractionner avec bâton, un intérêt pour quelle distance et fort ? Je sais pas. Peut-être pour les gens qu'on a vus aujourd'hui à l'OCC qui avaient pris des bâtons. Parce que du coup, ils courent souvent avec. Nous, à l'UTMB, faire du fractionner avec des bâtons, bon, vu à l'allure où on monte, à part Jim, les autres, ils en ont pas besoin, quoi. Anthony Boron, est-ce que Kylian Jornet court l'UTMB pour mettre en avant sa marque ? Oui, bah il adore l'argent, donc évidemment. Ou il a encore de la passion pour cette course ? Bah aussi, parce que sinon il resterait chez lui quand même. Mais d'ailleurs, il n'est pas venu. Il est sans doute vexé. Il n'est pas venu. Ou peut-être son Mercedes était en panne. Parce que c'est intéressant, donc Kylian nous a fait la morale sur Dacia, comme quoi c'était pas bien. Et plusieurs personnes lui ont fait remarquer qu'en fait, il était sponsorisé par Mercedes, comme l'indiquait son site internet. Et là, sa réponse était de dire « Non, mais c'est une erreur. » Alors, attendez. C'est une erreur, d'accord. Ça fait 3 semaines qu'on lui a dit qu'il était sponsorisé par Mercedes. Si je vais sur le site de Kylian Jornet, alors, est-ce que je tombe en premier sur son site ? Ouais, c'est là. Donc je vais sur son site, je tape sponsor. Ah putain, j'ai pas le droit d'y aller parce qu'il est hébergé en Catalogne. Ah l'enculé. Et... attendez, je vais taper sponsor Kylian. Tiens. Sponsor Kylian. Là. Ça y est, je suis allé sur la page. Alors, je déroule. Coros, qui a une usine en Chine. Ah, putain, il l'a enlevé. Ah, il l'a enlevé. Ah, il y avait Mercedes, il l'a enlevé. Ok, il l'a enlevé. Il l'a enlevé, d'accord. Bon, ça n'empêche qu'il y a passé plus de 10 ans. Alors, ouais, ouais, bah ouais, il promeut sa marque. En fait, t'es obligé. Tu peux pas avoir une marque de running et ne pas être présent au salon UTMB, en fait. Parce que les autres te bouffent. Forcément, il faut te faire connaître, il faut... C'est ça, hein, le marketing. C'est pour ça que quand il dit « je crée une marque qui va être écolo », en fait, là, il m'insulte quand il dit ça, parce qu'il me prend pour un débile. Je crée une marque parce que j'ai envie de développer un business et de m'assurer une rente à l'avenir. Voilà. Ça, c'est les vrais mots. Ça, c'est les vrais termes. Parce que je sais très bien qu'au bout d'un moment, on me donnera plus d'argent parce que je suis sportif. Donc, je serai président de ma marque, donc je vais toucher de l'argent par rapport à ça. Ça, oui, ça, d'accord, ça, c'est un vrai discours. Allez, ok, on va recycler une chaussure ou deux, mais enfin, bon, elles sont quand même made in China. Et ça ne lui pose aucun problème, bien sûr, qu'on frappe quelques enfants pour les faire. José Luis Sobrino Rodriguez, comment planifier une sortie? Eh bien, en se servant de ton emploi du temps. Tu regardes la météo, non, je ne suis pas homosexuel. Les dénivelés, la technicité du terrain, les sources d'eau. Ah oui, je déconne, oui, je regarde un peu tout. Si c'est une semaine classique, tu vois, avec un peu les horaires de boulot, donc pour moi, ça va être... ça va être les horaires de l'animation du week-end, ça va être les horaires d'enregistrement des podcasts la semaine. En fait, il y a un moment donné où malheureusement, la sortie de 3h, elle va se dérouler mercredi de 14 à 17. Et il faut que je sois rentré à 17 parce qu'à 17h30, j'enregistre quelque chose. Du coup, si de 14 à 17, il pleut, eh ben t'es baisé, quoi. T'es obligé d'y aller quand même. Maintenant, si en début de semaine, tu vois qu'il pleut le mercredi, mais pas le jeudi, et qu'éventuellement la sortie peut se décaler, pourquoi pas? Mais enfin, souvent... souvent, tu y vas quand même, quoi. C'est... donc, je regarde un petit peu, si jamais on peut s'arranger, mais pas trop. Les dénivelés, bah oui, en fait, je fais ce que mon coach me dit, hein. Je n'invente rien, hein. Je ne le paye pas pour lui passer des coups de fil et lui raconter ma life. La technicité du terrain, oui, en général, ça colle avec la course que je prépare dans le futur, dans les 2 à 3 mois qui arrivent. Les sources d'eau, bah oui, après je les connais hein, autour de chez moi. Et souvent, bah, ce que je fais, c'est que je prends une CB. Comme ça, je peux essayer de choper un village, de s'arrêter, voilà. Bon, oui, planifie une sortie, bah si tu veux, ouais, tu te sers de ton téléphone, Sunto, la carte de chaleur. Voilà quoi, au bout d'un moment, tu y vas quoi, t'arrêtes de demander et tu explores. Puis si tu te perds, tant pis, tu vas pas mourir, hein. Avant, on n'avait pas de smartphone. Maintenant, on a des smartphones pour appeler les gens. Les pompiers. Allô, je suis perdu, venez me chercher. Yann Converse, comptes-tu t'engager dans le merchandising de la vente du goulomètre qui va permettre de supplanter les capteurs de VFC? Eh oui. Et de saturation pour traduire la bonne forme du corps. Le Duc ira-t-il même plus loin en trouvant une mesure naturelle équivalente qui traduirait la bonne forme pour les dames? Pour les dames, c'est facile. C'est la régularité du cycle. Alors que pour les hommes, oui, effectivement, il faut tenir un petit carnet éventuellement et noter, tu vois, le matin à chaque fois la puissance du goulomètre, justement. Et si au bout d'une semaine, tu t'aperçois que la puissance est proche du néant, c'est qu'il y a un problème. Donc là, soit tu t'en bats les couilles et tu continues en fermant les yeux et en mettant le problème de côté, en attendant qu'il grossisse et qu'il t'explose à la gueule, ce qui est une décision bête, mais ce que souvent les gens font, parce qu'on refuse de se mettre en question, on a beaucoup trop d'amour propre. Soit tu te dis, ah merde, il y a un problème, il faut que j'allège mes entraînements. Donc tu as deux options. Option 1, j'accélère un petit peu et je vais dans le mur quand même. Option 2, je freine et je regarde si on peut pas l'éviter éventuellement. Alors. Donc ouais, je vais produire des carnets de gaulomètres. David R, comme Rambo, j'imagine. Si tu devais ajuster le parcours de l'UTMB, haute col, haute vallée, qu'est-ce que tu ferais? Pardon. Je le raccourcirais. Je ferais exactement le parcours du Tour du Mont Blanc, qui fait 152 km. Ara, l'UTMB dans le sens horaire, comme la Hard Rock, ça serait plus dur, moins dur, intéressant ou pas? Je pense que ce serait pareil, ce serait même d'ailleurs très amusant de l'inverser chaque année. Parce que on aurait donc une première montée, la flégère, tout ça, les balcons. Par contre, ce qui serait embêtant, donc il faudrait peut-être modifier quand même le début, parce que ce qui serait embêtant, c'est qu'on n'aurait pas de grand chemin large pendant longtemps. Donc à la limite, on peut imaginer peut-être une procession plus sur la piste forestière, les bois, voilà, jusqu'à Argentière, de la piste forestière, et à Argentière, on montrait. Voilà, faudrait imaginer un nouveau début, mais ce serait quand même sympa, parce qu'il y aurait en début de soirée le passage à Valorcine, il y aurait, on peut imaginer le passage à Argentière, il y aurait le passage à Trian, tu vois, début de la nuit, etc. Et puis, voilà, je pense que ce serait tout aussi intéressant. Alors après, te dire, c'est plus dur ou moins dur, c'est globalement pareil. Hein. C'est globalement pareil. Ludovic Lardies, pourrais-tu nous donner ton avis sur les différentes méthodes de mesure d'intensité d'entraînement, telles que la fréquence cardiaque, la puissance et l'allure? Si tu n'en regardes qu'une, tu vas forcément te planter de temps en temps. Donc il faut tout regarder en fait, il faut tout regarder tout le temps, le plus possible. Et du coup, soit ça te saoule et tu regardes plus rien, ce qui marche aussi. Soit ouais, tu prends tout en compte. Ouais. Donc typiquement, moi quand l'entraîneur me donne une séance, dessus il donne un peu de dénivelé, il propose quelques allures. Et puis voilà, moi je fais un mix de tout ça, en fait il faut être capable de savoir tout analyser quoi. Par exemple, si tu prends que ta fréquence cardiaque et puis pour une raison X ou Y, ce jour-là, elle monte pas, tu rentres chez toi, tu te dis « Ah ben, j'ai fait une séance de merde », et en fait, si tu aurais regardé ta vitesse, ça se trouve, t'étais dans les clous, quoi. Donc si tu regardes qu'un paramètre, tu vas te faire baiser à un moment donné ou à un autre. Donc ne te fais pas baiser, Ludovic Lardies. Gauthier Pirot, est-ce que tu penses que pour un amateur pas top, vas-y, rabaisse-toi, n'hésite pas, exemple un 18 MB inférieur à 600. Sur un ultra, au moins 18-20 heures de course, ça veut rien dire, ça dépend de l'ultra. Ça vaut le coup de vraiment s'échauffer avant le départ? Non, bien sûr que non, personne ne fait ça. Ou autant garder son énergie et faire un départ lent, car de toute façon, d'après tes observations, en partant en marchant, tout le monde part en marchant, on finit quand même presque top 100. En fait, pourquoi vous vous échauffez avant le départ? Déjà, la plupart des gens, pourquoi vous courez pour préparer un ultra? À quel moment vous courez sur l'ultra? Vous courez jamais. Sur l'UTMB, on court un petit peu pour aller aux ouches. Mais après, vous courez quand? Jamais. Donc, dès que vous faites une séance longue à l'entraînement et que vous courez, vous êtes en train de vous entraîner pour une autre course, mais pas pour votre ultra. Il faut beaucoup marcher. Ça, c'est Guillaume Millet qui le dit. Parce que du coup, quand vous allez vous mettre à marcher, vous allez être un débutant en marche. Du coup, vous n'allez pas bien marcher. Et puis, s'échauffer, ça sert évidemment à rien. Quand on part pour un effort de 20 heures, si vous faites monter le cardio d'entrée de jeu, vous prenez un pistolet puis vous tirez une balle dans le pied. Donc, en fait, l'échauffement, c'est le début, quoi. Après, si vous avez un ego surdimensionné et que vous acceptez pas d'être derrière, ça, c'est votre problème. Mais il faut partir doucement et monter en pression progressivement. Alors après, il y a le cas délicat où il y a un bouchon au début. J'ai de dire à l'UTMB, si je trouve qu'il y a un bouchon au début, je fais deux bornes à 17-18, j'ai pas besoin de m'échauffer pour faire ça. C'est pas, je vais pas me faire un claquage, hein, c'est pas très dur. Frédéric Delabrouille, comment gères-tu ce dernier mois de prépa entre la force que tu as acquise avec ton préparateur, tes ennuis au pied, ton énorme motivation, les sorties longues? Question subsidiaire, est-ce que cela modifie ton affûtage? Comment gères-tu ce dernier mois de prépa? Si tu veux, c'est assez facile. L'entraîneur, il envoie un plan, on l'exécute. Point, phrase terminée. Donc, il n'y a pas... Si tu veux, je ne suis pas assis au bord de la fenêtre à regarder le ciel et à me demander ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. J'ai pas le temps. Il y a des choses à faire, on les fait. Et après, éventuellement, vu comment se passe chaque entraînement, on réadapte, tu vois, derrière. Mais, je sais pas, en fait, vous avez beaucoup de temps libre au travail, je pense. Vous posez trop de questions. Comme dirait Scott Jurek, il faut juste faire les choses à un moment donné. Et est-ce que ça modifie ton affûtage? Ben non. Puisque l'affûtage, à chaque fois qu'on a voulu faire les malins et le modifier pour x ou y raison, on a échoué. Donc, cette année, on a repris une bonne vieille recette qui marchait en 2021, qui a marché à d'autres moments, et puis bah, qui, on l'espère, va donner les mêmes résultats. Willy Crochet, utilises-tu des crèmes de massage? Oui, massage, ouais. Avant ou après les entraînements? Non, assez rarement en temps normal. Ou avant la course. Donc, avant l'UTMB, la seule chose que je fais, mais c'est vraiment uniquement avec cette course, pendant 30 jours avant, je mets de la... Comment ça dure? Le baume alpin de Montée Mon Nature, qui est une NOC, mais sans pétrole à l'intérieur. Donc là aussi, on n'a pas eu l'avis de Francesco Puppi hein, sur la NOC, qui est pleine de pétrole. Mais... Donc je fais ça pendant 30 jours pour que le pied reste bien hydraté, d'autant plus que quand je suis en altitude, j'ai la peau plus sèche. Donc c'est intéressant de faire attention là-dessus. La coupe des ongles de pied est-elle importante? Oui, il faut se méfier, donc il faut, bah là encore, il faut les couper un petit peu, mais pas trop, hein, parce que tu peux te faire mal. Et si t'as pas envie de te prendre la tête, tu peux aller chez un podologue, et tu verras, il coupe beaucoup, hein, le podologue, il... Ah, il y va, le mec. Et mets-tu de la crème NOC pied? Bah, je t'ai dit oui. Aisselle, épaule, entrejambe? Non. J'ai pas d'irritation. Souvent, pour ne plus avoir d'irritation, il faut se diriger vers un vêtement sans couture. Ça, c'est un truc qui marche presque à tous les coups. Après, on peut débattre de la composition du vêtement, parce qu'il y a des trucs plus agressifs que d'autres. Mais ici, les trucs sans couture, vous allez voir, c'est assez miraculeux. Donc toujours Willy Crochet, même si tu es un coach, prends-tu conseil auprès de tes parents, ton frère ou autre, ou tu n'en fais qu'à ta tête de duc? Mais là encore, oui, je vais te faire la même réponse que Frédéric, c'est à un moment donné, j'ai pas le temps de demander l'avis de mes voisins sur ce que je fais tout au long de la journée. Donc je fais les choses, et évidemment, quand tu te remarques est faite, je l'entends, hein. Mais je vais pas aller naturellement faire un sondage dans la rue pour savoir ce que les autres en pensent, quoi. Charlie Lecoq, peux-tu détailler tes points forts, faibles en termes de terrain, hein, plat, montée, descente, technique, roulant, et expliquer la stratégie d'entraînement vis-à-vis de ça? Eh bien, Charlie, malheureusement, en trail. Tu vois, parfois ça va monter raide, parfois ça va monter pas raide, parfois il y aura une route, parfois il y aura un single, parfois ça va être technique, parfois ça ne va pas l'être. Donc dès que tu as un point fort, c'est bien, et dès que tu as un point faible, c'est mal. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc le but du jeu, en fait, c'est toujours pareil, c'est d'être bon partout, ce qui est impossible. Du coup, il faut être le moins nul possible dans tous les domaines. Mais il faut toujours bosser son point fort. Parce que sinon, il baisse un petit peu. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas d'endroit où je suis meilleur que les autres. Par contre, hormis me balancer en plein milieu d'une échappée belle, normalement, sinon, je vais pouvoir gérer à peu près tous les types de situations. Donc, en point faible, qui serait un peu à développer, mais le problème, c'est que quand tu passes du temps à développer ton point faible, tu développes pas ton point fort. Donc, après, tu deviens beaucoup plus nul, peut-être. Ce serait éventuellement de passer plus de temps dans le technique, mais pour l'UTMB, bah, ça sert à rien. Et de passer plus de temps à faire de la force, en fait, pour courir sur les pistes forestières. Ce que j'ai un petit peu fait cette année. Donc on verra si ça s'est vu. Alors, Frédéric Delabrouille, comment doit-on se fixer un objectif de temps sur une course si on veut s'en fixer un? Tu te fixes des objectifs ambitieux et tu assumes la prise de risque et le résultat final. Bah, comment doit-on se fixer un objectif de temps? Bah, je sais pas, moi, tu prends des indicateurs. Le tableau Phantom Live Trail, c'est pas mal. faut juste garder en tête que souvent il te fait partir vite et finir doucement. Donc il faut peut-être pas le suivre pendant le premier tiers de course. Faut pondérer un petit peu. Après, en fait, à un moment donné, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas une recette miracle. Il faut y aller, il faut faire. Et il faut pas avoir peur de se rater, quoi. Il faut faire le truc soi-même, quoi. Tu peux pas. Et malheureusement, il n'y a pas de procédure réalisée par Martine dans son bureau, quoi. Nadine Raka, cette année, tu travailles entre autres à améliorer l'affûtage. Nadine, podcast d'hier. Yes. Frédéric Delabrouille, tu parles de Alban qui marque moins l'effort, il serait parti moins vite que toi sur l'UTMB, je n'ai pas vérifié. Si. Et pour finir devant. Alors, je ne me rappelle plus trop d'où il était au départ, mais il était derrière. Et très exactement, il était 5 minutes derrière moi à Courmayeur. Donc, la différence était peut-être pas énorme. Est-ce que tu ne devrais pas partir moins vite pour limiter ? Ça peut être une solution. En effet, on peut tester un jour de partir encore plus doucement. Mais de pas beaucoup, tu vois. 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là. C'est possible. C'est une réflexion qui n'est pas inintéressante. Maintenant, je l'ai vu faire l'an passé. Donc, accélérer sur la fin de course. Et j'ai trouvé ça quand même assez extrême. Je me sentais pas capable de faire ça. Ça m'a beaucoup surpris. Et il faut quand même garder en tête qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des gens qui marquent beaucoup moins à l'effort. Alors, c'est assez étonnant. Mais par exemple, Romain Berger est quelqu'un qui ne courbature pas sur les courses. Donc, typiquement, après son 90 du Mont-Blanc en 2017, il fait 3e derrière Clemente et Thévenard. Le lendemain, il a fait un KV, il est redescendu. Au total, il avait fait 11 bornes et 1000 mètres de dénivelé. Parce qu'il était fatigué, il avait mal à la tête, mais il avait pas mal aux jambes. Moi, jamais de la vie. Hein. Jean. Si jamais le parcours est modifié, météo ou autre imprévu, comment tu vas pouvoir juger de ta performance vu que l'indice varie ? Je pourrais pas trop. Là, malheureusement, il faut accepter qu'on n'ait pas de réponse à sa question. D'ailleurs, le parcours varie un petit peu hein, sur la fin, là, au niveau de Trian. Et avec la montée à tête au vent qu'on fera pas. Donc c'est vrai que cette année 2023, on pourra pas comparer le chrono par rapport à 2022, 2021. Par contre, Nicolas Martin, qui ne court aucune des courses cette année, va scrupuleusement analyser ses nouveautés en comparant les temps des mecs qui ont fait l'UTMB ces 2 dernières années et le temps qu'ils ont mis cette année sur les portions qui changent. Et il nous pondra une petite comparaison. Quoi. Jean-Jacques Touret, J2T. Ta mesure des pulses quotidiennes, tu l'observes allongé, assis, dans ton pull en te lever, premier truc que tu fais en réveillant, ou c'est plus souple, genre tu fais ça au calme dans un canapé. Ouais, je faisais toujours pareil. Donc quand je me lève, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais, je reviens, je me remets dans le lit, je m'assois dans le lit, tu vois, contre la tête de lit, et là je mets le truc pour mesurer. Et c'est extrêmement chiant. Donc j'imagine même pas faire ma VFC. Kevin, peux-tu expliquer l'intérêt de contrôler sa saturation en oxygène et comment interpréter les valeurs ? C'est très facile. Donc, quand tu es en pleine, normalement, c'est pas censé bouger. Ou vraiment très peu. Donc tu peux pas analyser. Quand tu es en altitude, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre ta saturation un peu en pleine, puis normalement, tu vois que tu es à 99 sur 100. Et t'arrives en altitude au-dessus de 2000, et là, t'es à 94. Donc là, ça veut dire qu'il y a une vraie diff, tu vois. Il y a un temps d'adaptation. Si tout de suite, tu fais le bourrin, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être à 90. Donc, t'accentes, tu creuses encore un peu plus ta tombe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surveiller tous les jours la saturation, faire des entraînements doux. Si ta saturation, elle reste à 94, c'est que peut-être, tu y vas un peu fort. Ce sera intéressant de baisser, parce que ce qu'il faut voir, c'est une saturation qui remonte au fil des jours. Ça veut dire que tu t'adaptes de plus en plus. Et après, une fois que tu es adapté, à chaque fois que tu fais un effort violent, donc au bout de 10 jours, t'es adapté. Le 11e jour, tu dis, ouais, je vais faire péter du seuil. Bah, tu reviens, tu t'es donné à fond et tout. Le lendemain, tu mesures, pouah, t'as rechuté. Ça, c'est normal. Ça veut dire que du coup, il faut laisser, au lieu de refaire un exo difficile le lendemain du seuil, il faut faire tout doux et attendre peut-être 48 heures que la saturation soit remontée un petit peu. Et c'est un bête chiffre qui va de 1 à 100. Bon, en dessous de 75, t'es sur un lit d'hôpital, hein, mais voilà. Frédéric de la Brouille, comment gères-tu les encouragements le long du parc? Putain, Frédéric, cette année, t'as posé que des questions de merde. Comment gères-tu les encouragements? Bah, je sais pas, je laisse les gens faire. Tu veux que je fasse quoi? Que je leur jette des cailloux? Ouais, enculé, fermez vos gueules. Cela doit être sympa au début. Alors, non, pas trop, parce que si tu veux, au début, les gens t'encouragent. Bah, t'es pas fatigué, il faut pas trop que tu changes de rythme. Donc ouais, ils t'encouragent, mais ça sert à rien. Alors t'es gentil, tu souris et tu fais coucou. Alors que sur le dernier tiers, là, c'est pas pareil. Tu vois, t'as souffert, t'as passé la nuit, t'en as chié. T'as mal à un pied, t'as mal à un genou, t'es plus sur tes allures, ça devient compliqué, t'arrives plus à bouffer, t'as pas assez bu, t'as un peu mal au ventre. Ouais, là, ça fait du bien, tu vois. Tu sors de la nuit, tu revois un peu des gens qui t'encouragent. Là, tu respires un peu, tu dis « Ah putain, ouais, allez, c'est vrai, il faut que je me remobilise. » Mais tu gères pas les encouragements, en fait, tu les prends dans la gueule, c'est tout, quoi. Tu vas pas d'un coup faire le 36-12 encouragement et commander 20 gus pour dans 2 km pour qu'ils tapent des mains, quoi. Donc tu subis ce qui se passe, en fait. Est-ce que cela redevient sympa dans les rues de Chamonix? Non, c'est affreux, les gens te disent « Bravo, c'est vraiment détestable. » Ah oui! Max Adeloin, merci pour ce partage sur le pic de forme. Utilises-tu des stats Nolio pour confirmer les sensations? Non, absolument pas. Je suis un très mauvais ambassadeur. Moi, je peux juste te dire que Nolio, c'est cool parce que tu peux modifier tes entraînements sur ton téléphone portable. Mais toutes les fonctions ultra starbées qui sortent sans arrêt, ils ont même arrêté de me les présenter parce qu'ils savent que je m'en fous. Voilà, notamment les stats Trimp. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est. Qui affiche une estimation de la forme et de la condition physique. Non, si tu veux, moi, j'ai pas besoin de me réfugier dans un gadget électronique pour me dire que je suis en forme. Ça m'intéresse pas d'avoir l'avis d'un processeur, en fait. Moi, j'ai l'avis de moi-même que quand je cours, je me sens bien. Et quand je cours, des fois, je me sens moins bien. Et donc, de manière plutôt logique, j'en conclus que quand je me sens bien, c'est que ça va. Et quand je me sens pas bien, c'est que ça va pas, tu vois. D'une manière extrêmement simple. Donc, non, je me sers pas d'outils. As-tu déjà étudié ces courbes a posteriori pour comparer, par exemple, Istria et Eiger? Bah non, parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Tout ce qui est charge de Foster et tout, j'ai vu le nom, là, en haut à droite du graphe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça représente. Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'en fiche. Et surtout, je pense que je donne pas assez régulièrement mes données pour que ce soit valide. Parce que des fois, j'ai pas le cardio, des fois, je l'ai. Même le RPE, en fait, dire de 1 à 10 si c'était dur ou pas, je sais pas, moi, je mets toujours 4, quoi. Ouais, j'ai du mal avec ces trucs. Puis j'ai pas le temps, j'ai pas envie... La sensation, quoi. Il faut. Voilà, faut revenir à des trucs simples. Tu fais un 6x1000, est-ce que les chronos étaient bons par rapport à ta vitesse? C'est à plat, c'est facile de comparer. Et quelle sensation t'as eu par rapport à ça? Ah bah t'as fait 3-10 comme à chaque fois? Hein? Quoi? Cette fois c'était facile? Tu voulais accélérer? Ah bon, d'accord. Ah bah c'est que t'es en forme. Tu vois, ça c'est simple. Junior, comment envisages-tu la suite de ton UTMB si ton plan en 22h30 semble s'éloigner, arriver à Courmayeur par exemple? Alors. Ah, ce serait un très mauvais signe, puisque à plus ou moins 5 minutes près, mes temps de passage à Courmayeur ne sont pas du tout difficiles à tenir. Ça veut dire que si je ne les tiens pas, il y a un très gros problème, et la suite va être vraiment merdique. Alors, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi. Bah, visible, ça ne répond pas, malheureusement, pas de bol. À ce moment-là, bah, comment tu fais? Tu oublies la performance et tu te dis, bon, c'est foutu, c'est foiré. Si pendant les 10 premières heures, j'ai pas été bon, je ne serai pas bon pendant les 10 suivantes. Donc, on oublie le chrono, je prends la montre, je la balance dans la forêt. Ah non, merde, ça pollue. J'oublie le chrono, j'avance, je mange, je bois, et on rallie la ligne, et terminé, bonsoir. Donc, sur le plan mental, en fait, tu vas pas te remobiliser. Si t'as été nul pendant 10 heures, c'est parce que t'es nul aujourd'hui à l'instant T, donc tu seras pas bon dans les 10 prochaines heures. Ça, ça n'existe pas. On essaye de vous le faire croire, de vous le faire rêver, de vous le faire fantasmer. Mais le jour où tu dois être fort, tu vas être fort dès le départ, en fait. Tu sais pas d'un coup, au bout de 12 heures de course, « Oh putain, ah ouais, ah ben je vais deux fois plus vite. » Ah non, ça, ça n'existe pas. Donc si les sensations sont mauvaises dès le début, bah tu l'as dans l'os et puis tu te démerdes hein, jusqu'à la fin. Hein, tant pis, c'est foutu. Hein. Faut accepter. Les gens n'acceptent pas. C'est... Quand c'est foutu, c'est foutu. Aujourd'hui, on veut toujours une solution, un retour en arrière, et on magouille pour quand même y arriver, ceci, cela. Non. Quand c'est foutu, il faut l'accepter, et tant pis. François Ferdin, tu ne manges jamais de pain. Ah, magnifique question à la fin. Eh ben non, François, parce que tu vois déjà, mes glycémies à jeun sont très mauvaises, donc si en plus je m'empiffre de la bombe glucidique que représente le pain, là, je peux tout de suite prendre rendez-vous avec mon médecin pour faire quelque chose, parce que là, ça ne va pas aller du tout. Hein. Donc, le pain, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous ne me croyez pas, vous pouvez acheter le livre « Gluten, comment le blé moderne nous intoxique ». Et c'est souvent pour ça que nos anciens se font avoir et attendent la mort en étant en surpoids dans des EHPAD. Parce que eux, à leur époque, donc on mangeait du pain tout le temps, mais c'était du vrai pain. Tu vois, ils avaient des farines qui n'étaient pas trop transformées. Et au fur et à mesure du temps, pour nourrir toujours plus de gens sur la planète Terre, eh bien, on produit des farines toujours plus modifiées génétiquement. Donc là, je vous fais un résumé de Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, de Julien Vénesson. Mais en gros, c'est ça l'idée, de base. C'est de dire, oh, la population mondiale grandit. Ah, bah du coup, il faut qu'on produise plus de blé. Ah, bah pour produire plus de blé, on va modifier son génome. Patati, patata. Et les chromosomes du blé, ils sont passés de 2 à 46 en je sais plus combien d'années. Bon, j'ai pas les chiffres parce que j'ai lu le livre en 2016. Mais vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, en fait, vous mangez un pain qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on avait par le passé. Alors là, je vois forcément les casse-couilles et qui lèvent la main et qui font « Ah oui, mais moi, ma boulangerie, c'est des petites épaules, machin, truc bidule. » Ouais, ok. T'as vérifié ? Hein, quoi ? Comment ça, j'ai vérifié ? Ben, mon boulanger m'a dit c'était petites épaules. Ouais, mais peut-être qu'il t'a mis une douille. Non, il est gentil. Ouais, mais ça se trouve, il y a 20% de petite épeautre et 80% d'une farine de merde. Et le mec, il écrit petite épeautre et il vend ça comme ça. Voilà. Demande-lui hein, s'il utilise 100% de farine. Souvent, ils sont honnêtes, hein, ils te répondent. Tu peux demander. Donc, même si vous allez dire, ouais, mais moi, je mange du pain complet, patati, patata. Pareil, la qualité elle a été dégradée, de toute manière ils font des mix, c'est pas 100% à chaque fois. Hormis, bien sûr, il existe toujours, la très rare petite exception. Mais globalement c'est hard. Et en fait, si, j'en mange, parce que quand on m'en sert sur une animation, bah, je vais en manger un petit peu avec le plateau repas, par exemple, ou si c'est un sandwich, bah, je vais en manger un petit peu. Mais c'est vrai que je vais essayer quand même d'en manger le moins possible, parce que malheureusement, c'est un produit qu'on ne peut pas manger quotidiennement, ça n'est plus possible. Alors après, vous pouvez vous amuser chez vous à faire votre pain avec un mélange de farine de sarrasin, de petites épeautres, alors surtout pas de maïs, surtout pas de riz, c'est peut-être encore pire. Voilà, vous pouvez faire un truc chez vous. Mais, in fine, même si vous avez un meilleur produit, le pain, c'est un peu comme le fromage. Alors déjà, les deux ensemble, vous avez le combo du diable. C'est très bon. Là-dessus, on est tous d'accord. Du coup, tu le manges comme ça sans faire gaffe. T'sais. Hop, tu l'avales. Et à la fin du repas, en fait, t'as bouffé énormément de glucides juste parce que t'as mangé un gros morceau de pain. Parce qu'en fait, c'est très très concentré, c'est très dense, tu vois. Comme le fromage. Tu vois, le fromage, il y a beaucoup de calories en très peu de matière ou surface. Donc si tu fais pas gaffe, tu manges une tranche, deux tranches, trois tranches, bah en fait, t'as largement surdépassé ton quota de protéines. Et du coup, malheureusement, tu vas trop t'acidifier parce que les protéines sont toutes acidifiantes. Même s'il y en a toujours qui se tripotent un petit peu devant le tableau des aliments pral en disant « Eh, mais celui-là, il est un peu moins que l'autre !» C'est acidifiant quand même, donc on s'en fout. Et du coup, une fois que tu as dépassé ton quota journalier, bah, tout ce qui est dans le dépassement va nuire à l'organisme. Donc voilà, mon petit François, évidemment, moi je suis comme toi, hein, j'adore ça, le pain, mais j'essaie d'en manger le moins possible pour pouvoir continuer à en consommer quand ça me fait plaisir, un petit peu en mode récompense, tu vois. Ah, je te le dis tout de suite, je fais l'UTMB. Le soir, quand je rentre, donc il faut que je rentre avant 19h, je passe commande à la réception de l'hôtel. Le dimanche matin, je m'empiffre. Ok ? Mais, quand je peux maîtriser dans la vie de tous les jours, je fais doucement. Comme ça, dans les grandes occasions, je peux en profiter. Tandis que si je fais le bourrin tous les jours, un jour, le problème va arriver, et quand le gros problème arrive, eh bien après, je ne peux plus du tout profiter, puisque le gros problème est arrivé. Donc il faut faire attention pour pouvoir continuer à utiliser les choses. C'est exactement comme l'écologie, parce qu'une fois que tu y réfléchis, tu te dis, bah en fait, la solution, c'est qu'on arrête de faire tous les événements, c'est qu'on arrête de se déplacer, qu'on reste chez nous, et puis tiens, en fait, la solution vraiment géniale, ce serait qu'on se suicide. Donc quand on est arrivé là, tu te dis, bah non, en fait, on va pas se suicider, c'est chiant. Et tu réfléchis à l'envers, tu te dis, bah en fait, on va tout limiter. Comme ça, occasionnellement, on peut profiter de quelque chose d'exceptionnel. Donc ça va être le cas, par exemple, avec l'UTMB. C'est très excitant, on prend un shoot de dopamine monstrueux pendant une semaine, on est tous sur nos petits nuages. Et bah le reste de l'année, tranquille. On fait peut-être une course ou deux ailleurs, mais c'est des événements moins gros. Tandis qu'un événement comme l'UTMB, tu pourrais l'organiser tous les mois, si tu y mets le paquet, hein, niveau salarié, médias, etc., et reprendre ton shoot de dopamine tous les mois. Et tu vois, là, on serait clairement dans l'abus. Voilà, bon, je faisais un parallèle un peu grossier. Je vais vous laisser là-dessus. Tiens, finalement, je me suis dépêché, ça a fait moins d'une heure. On va pouvoir faire une petite conclusion, puisqu'on arrive tout de même à la fin de 30 jours de podcast quotidien. Donc ça va me reposer de ne plus m'adresser à vous demain. Et je voulais dire merci. Merci à tous ces patriotes. Certains que je connais maintenant depuis 3 ans. D'autres depuis un peu moins, mais que je connais très bien quand même parce qu'ils sont ultra actifs. D'autres que je connais pas du tout, mais qui sont là quand même. Donc c'est très intéressant. Là, il y en a beaucoup qui sont sur la semaine UTMB, qui vont encourager. Ça me touche énormément, puisque bah, personne n'est obligé de le faire. Donc j'espère que bah, les planètes vont s'aligner et que tout va bien se passer pour pas qu'il y ait une grosse déception et que l'histoire puisse être belle. Mais merci du soutien, vraiment, réellement. J'ai déjà hâte de vous faire un magnifique retour vendredi prochain. Et puis aussi une revue de presse exceptionnelle ce lundi, voilà, qui aura une taille non définie à ce jour. Peut-être demanderai-je à certains de donner quelques photos pour l'agrémenter. Et voilà, en tout cas, merci à tous. Je vais maintenant plonger dans ma bulle. Il est jeudi 18h. Et donc, ça y est, 24 heures avant le départ de l'objectif, je raccroche les gants et je vais pouvoir me laisser guider tout seul dans mon logement, à ma préparation du sac, des affaires, tranquillement. Le taf est fait. Merci encore à tous. Et il va falloir maintenant concrétiser le travail, puisque, comme je le disais parfois, vous vous entraînez, c'est bien, vous êtes content. Vous êtes fiers de vous. Et là, vous arrivez au départ de la course. Et si vous êtes trop confiant, que vous vous dites « c'est bon, je me suis bien entraîné, tout va bien se passer », c'est là que ça devient la merde. Parce qu'en fait, bien s'entraîner et arriver en forme au départ de la course, c'est la base. Maintenant, le plus dur reste à faire. parce qu'il faut pas faire de conneries dans la première heure, il faut pas faire de conneries dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, etc., etc., etc. Il va falloir jouer sur tous les paramètres jusqu'au bout. Donc c'est parti pour l'ultime round sur cette UTMB 2023.